Bonjour et bienvenue à l'émission Libre Propos. Au micro, Karine Delamer, à la régie, Simon Martin et mon invité, le père Emmanuel Blondeau. Bienvenue sur Radio Grand Ciel. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Dans cette émission, le père Emmanuel Blondeau nous propose des clés de lecture pour donner du sens à notre actualité. Père Emmanuel, bonjour.
Bonjour Karine.
Alors père Emmanuel, on nous a beaucoup parlé, et on va nous en parler pendant une bonne année, de la vie consacrée. Alors j'ai voulu te recevoir pour comprendre ce que c'est qu'une vie consacrée. Est-ce qu'on n'est pas tous consacrés ?
Si, on est tous consacrés. Hein. Donc on est tous appelés par le Seigneur. On est tous appelés à faire notre vie un chemin qui mène à la suite du Christ vers Dieu le Père. Donc tous.
Par notre baptême.
Par notre baptême, voilà. Mais parmi les baptisés, il y en a certains qui vont entendre cet appel particulier à vivre les conseils évangéliques d'une manière un peu radicale. Et ce sont les religieux, les religieuses, ce sont les membres des instituts de vie consacrée. Voilà. Alors, les conseils évangéliques, le conseil à la pauvreté, l'appel à la chasteté, à l'obéissance, souvent je dis, ça ne concerne pas d'abord, ça concerne tout le peuple de Dieu. Ça vous concerne, Karine. Ça vous concerne dans votre vie de famille, cette pauvreté. Et souvent je le dis, rassure-toi, Karine, tes enfants se chargeront bien de t'appauvrir et de te vider tout ce que tu gagnes. Voilà. La chasteté, c'est aussi comment dans le couple on vit cette relation, ça, cette distance qui permet à l'autre de grandir, d'exister et de vivre, ne pas mettre la main sur lui. Hein. Va pas imposer à ton mari je ne sais trop quoi. Et puis l'obéissance, c'est bien cette écoute respectueuse pour que dans cette vie de couple, dans cette écoute, dans ce dialogue habituel, chacun puisse trouver un chemin de vie. Donc ça concerne, les conseils évangéliques concernent tous les chrétiens.
Bon, bonne nouvelle.
Voilà. Et ils me concernent moi aussi. Mais voilà que certains entendent ces conseils de manière particulière et font des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Puis parfois, ils rajoutent un vœu de stabilité pour des moines, etc.
Alors, radical, ça veut bien dire à la racine, quoi. C'est ça,
voilà,
que tu veux dire ?
Voilà. Et voilà. Donc, la pauvreté, alors, je me dis, c'est d'autant plus radical que ça peut être... dans nos sociétés, on est quand même tous des hommes et des femmes qui cherchons la richesse.
C'est vrai.
Voilà. Et puis, eux, la radicalité, c'est de dire, mais moi, ma seule richesse... c'est Dieu. En attendant ça, ça fait réfléchir un instant.
Ça interroge.
Ça interroge, voilà. Et je crois que la vie religieuse, aujourd'hui, dans notre société, elle est là pour faire signe. Elle est là pour interpeller. De fait, nos sociétés cherchent autre chose. Mais voilà qu'eux viennent nous dire, consacrer sa vie totalement à Dieu dans cette forme-là, c'est annoncer cette grande espérance, cette joie, cette paix que Dieu donne aujourd'hui et pour toute la vie et pour l'au-delà. Hein. La vie religieuse, elle vient annoncer ce Dieu pour qui c'est tout. C'est tout pour eux.
Alors, on entend le terme joie et je pense que c'est souvent d'ailleurs la réticence de parents en disant « Ah non, ça, tout le monde, mais pas mes enfants. Quoi. Il faut qu'ils soient heureux. »
Ah bah, voilà. Voilà. Mais justement, c'est... la joie n'est pas avoir le portefeuille bien rempli, la joie n'est pas de multiplier les conquêtes amoureuses, la joie n'est pas dans cet espace privé que l'on veut se réserver. Non, non. La joie, elle est dans une vie donnée, totalement donnée, comme le Christ, à la suite du Christ. Voilà ce que nous disent les religieux et les religieuses. Je n'ai une vie et je veux la donner totalement à Dieu.
Donc les religieux et religieuses sont heureux.
Heureux, bah oui, sinon on ne peut pas être religieux et religieuse. Ça fait partie des gènes de la vie religieuse. Un religieux, une religieuse qui ne serait pas heureux, il n'aurait pas sa place dans la vie religieuse. Alors ça n'empêche pas les épreuves de la vie, ça n'empêche pas les soucis.
Comme tout le monde.
Voilà. Pas le coup, ce n'est pas forcément les mêmes soucis, mais ça n'empêche pas les soucis. Moi je pense au poids que représente la vie communautaire. Hein.
Qui fait partie vraiment de
la
vie religieuse.
Ouais. De trouver, de partager au quotidien cette vie-là. C'est à la fois une grande joie parce qu'on est soutenu. Hein. Mmh. Personnellement, quand je rentre à l'évêché et que je vois les sœurs qui sont en prier, pour moi, c'est toujours une invitation à la prière. Je dis, Emmanuel, arrête-toi aussi devant Saint-Sacrement. Prends le temps de ton oraison aujourd'hui. Et dans la vie communautaire, dans la vie religieuse, la vie communautaire, elle est comme un soutien à la vie de prière. Mmh. La vie communautaire, elle est un soutien à la vie fraternelle. C'est facile de dire, je vais aimer tout le monde, mais le tout le monde, c'est d'abord mon frère avec qui je partage le quotidien. Le tout le monde, c'est d'abord la sœur avec qui je partage le quotidien. Et donc, il y a à la fois une force de cette fraternité vécue là, précisément, avec cette personne-là, qui parfois m'énerve, qui parfois ne me comprend pas. Ouais. Voilà. Et puis, parfois, dans nos communautés religieuses, il y a des écarts intergénérationnels. Hein. Ce n'est pas facile de se comprendre. Parfois, il y a des distances culturelles. Ce n'est pas facile de faire communauté avec des sœurs qui viennent d'un autre continent. Mais ce sont un frère et une sœur, et par leur vie fraternelle en communauté, ils annoncent cette fraternité que l'on désire pour l'ensemble de la société.
Donc c'est vraiment, on pourrait dire, original, leur manière d'être.
C'est très original, hein, parce que vivre la communauté, c'est vraiment original. Vivre de cette manière-là, les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, c'est vraiment original, et c'est original pour faire signe, pour nous interroger, pour nous interpeller, pour que nous, les croyants, nous puissions, avec eux, suivre Jésus le Christ.
Alors, cette manière de présenter la vie communautaire et ces conseils évangéliques, moi, ce que j'entends derrière, c'est une volonté, c'est un choix. C'est-à-dire que ce n'est pas subi.
Ah bah, c'est un appel.
On reste libre d'obéir.
Bah, c'est un appel. Toujours. Bah oui, c'est un appel qu'on entend, auquel on répond. Hein, la vie religieuse, c'est d'abord le Seigneur qui m'a appelé, auquel, avec mon péché, mes limites, je lui réponds pour faire de ma vie une vie donnée. Hein, ce qui doit être marqué, on a tous, hein, Karine, toi aussi, hein, ta vie, elle est donnée. Elle est donnée à Dieu, elle est donnée à ta famille, à ton mari, à tes enfants, elle est donnée à la vie de l'Église. Mais il y a une certaine manière, une certaine radicalité de cette vie donnée, parce que c'est une vie donnée avec cette perspective du royaume des cieux. Elle est donnée que pour ça. Voilà. Quand tu es religieux, religieuse, bah, tu n'as pas d'enfant. Et donc, ta vie, elle est dans cette espérance que Dieu te donnera une vie, une joie, une descendance qui n'est pas celle de cette terre.
Et quand on parle de vie consacrée, on parle aussi de règles, qui peut aussi, d'extérieur, un peu intimider. Qu'est-ce que concrètement on peut en dire dans la vie consacrée ?
Alors moi, je veux dire, d'abord pour ma vie personnelle, moi, je me donne des règles. Hein. Des règles de lever, des règles de coucher, des règles de prière, des règles que je passe mon temps à revoir. Hein. Mais on a besoin de règles pour mettre dans sa vie la manière de répondre au Seigneur.
D'accord.
Parce que, de toute façon, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille célébrer la messe. Voilà, donc souvent, les règles sont déjà données par l'extérieur. Et bien là, une communauté... Une congrégation se donne des lignes, des règles pour aider le religieux, la religieuse à répondre à l'appel que le Seigneur lui adresse concrètement. C'est pas « Seigneur, je veux te suivre » et puis j'en fais qu'à ma tête. Non, « Seigneur, je veux te suivre » et voilà que je veux te suivre en passant par ce chemin qu'un fondateur a ouvert de cette manière-là de vivre, originale. Et d'une communauté à une autre, d'une congrégation à une autre, il y a des chemins un peu divers de répondre au Seigneur.
C'est ce qu'on appelle un peu les charismes de
voilà, communauté. Voilà, les charismes qui sont liés avec un fondateur, qui à un moment donné de l'histoire a une intuition. Et cette intuition-là, il la partage avec d'autres, que d'autres sont venus avec lui.
Donc les carmélites d'un côté qui
voilà.
sont surtout pour
le Je me dis, mais est-ce que Saint François pouvait imaginer que sa manière de vivre, sa manière de aller modifier l'Église du Moyen-Âge? Voilà, je ne sais pas si, enfin voilà, je ne sais pas ce qu'il en est des fondateurs qui d'abord répondaient à un appel personnel et se trouvaient des frères et des sœurs pour que cet appel, ils puissent le vivre concrètement dans un temps donné et répondre ainsi aux aspirations, aux attentes de l'Église et du monde de leur temps.
Alors aujourd'hui, dans notre diocèse, donc l'équivalent du département, on a 17 congrégations, donc 17 familles, 17 chemins différents, ça fait à peu près 30 communautés, on peut dire presque 200 personnes à peu
J'ai
près.
Pas fait mes calculs, mais il faudrait que je me pose la question. Oui, ça fait une belle assemblée quand une fois par an, il y a la journée de la vie consacrée.
Donc le 18 avril.
Le 18 avril, voilà. Quand ils se retrouvent tous, oui, ça fait une belle assemblée. Sachant que dans ces religieux et religieuses, il y en a un certain nombre qui ont un âge avancé et donc qui ne peuvent participer. Hein, je pense aux sœurs de Saint-Paul là, qui vivent à la maison mère. Je ne sais pas combien elles sont, mais elles sont assez nombreuses. Voilà, qui vivent à leur rythme sans pouvoir s'y. Ouais.
Alors, on a donc toute cette richesse dans le département. On a cette richesse de toutes ces religieux et religieuses qui, encore aujourd'hui, là, en 2015, travaillent pour nous. Est-ce qu'il existe des communautés nouvelles encore aujourd'hui dans l'Église ?
Alors, par exemple, le chemin neuf que l'on connaît, voilà, une communauté nouvelle avec une manière nouvelle de comprendre la vie consacrée, de s'engager d'une manière... voilà. Moi, un peu ce qui m'interpelle et ce qui me fait un peu souffrir, c'est il y a encore quelques années, dans beaucoup de quartiers, il y avait une petite communauté de sœurs apostoliques.
Comme à Dreux
Comme à Dreux, même dans nos villages. Hein. Il y a 30, 40 ans, une petite paroisse pouvait... Ce qui équivaut aujourd'hui à nos paroisses, il y avait plusieurs communautés religieuses. Je ne sais pas, il y avait peut-être... Il y a 50 ans, il y avait peut-être une cinquantaine de communautés des Sœurs de Saint-Paul dans le diocèse, peut-être même plus. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que dans des tout petits villages, il y avait 3, 4 sœurs qui vivaient là, qui avaient une tâche de visite aux malades, qui avaient une tâche de soins infirmiers, qui menaient leurs écoles. Voilà. Alors petit à petit, cette vie-là a disparu parce qu'un certain nombre de responsabilités sont revenues à l'État et aux collectivités locales. Et ça, c'est bien. Mais je me dis aujourd'hui, quel est le signe de cette vie donnée à Dieu, de cette vie donnée aux hommes dans le service des frères, va-t-il pouvoir être signifié alors qu'il y a plus en proximité des communautés religieuses? Pour moi, c'est une sacrée question. Voilà. Je me dis, par exemple, les enfants du caté, comment vont-ils connaître la vie religieuse? Parce qu'ils ne sont pas en contact de manière habituelle avec des religieux, des religieuses.
Voilà une question qui va ouvrir certainement un prochain libre propos, Père Emmanuel. Chers auditeurs, à très bientôt et puis nous vous tiendrons informés sur les différents événements pour la vie consacrée dans le diocèse. I love you.